Alors, c'était l'éphéméride de François Germain qui ouvre ce Bretagne 5 matin que nous allons partager avec vous jusqu'à 9h. Toute l'équipe de la matinale et de la Frédéric Guillon à la réalisation, Nathalie Villanon à la coordination d'antenne, Stéphane Hamon, votre serviteur au micro. Vous avez entendu les tops, il est 7h. L'heure des informations avec Léo Ardourel. Bonjour.
Bonjour à tous. Les trois quarts des vols sont concernés à Paris-Orly, plus de la moitié à Roissy et jusqu'à 65% à Marseille-Provence. De nombreuses perturbations sont attendues aujourd'hui dans les aéroports du pays et ce malgré la levée du préavis de grève chez les contrôleurs aériens. Hier, le syndicat majoritaire a trouvé un accord, mais le délai était trop court pour pouvoir rétablir tous les vols à temps. Selon le ministre délégué au transport, le préavis déposé pour l'ascension a lui aussi été levé. L'enquête avance après la mort de Philippe Koopmans à Grande-Synthe. Un troisième mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire hier soir. Il s'agit d'un ado de 15 ans, cousin de l'un des deux mineurs déjà mis en examen. Il est soupçonné d'avoir pris à l'agression mortelle de Philippe, dont les obsèques ont été célébrées hier. 500 personnes étaient présentes. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron à la Sorbonne, le chef de l'État va y prononcer un discours sur l'Europe ce matin, 7 ans après un premier exercice au même endroit durant lequel il avait élaboré une feuille de route pour l'UE pour les 10 ans à venir. L'occasion pour lui de faire le bilan et de dresser de nouvelles perspectives à 1 mois et demi des élections européennes du 9 juin. À l'étranger, le gouvernement israélien dit avancer dans les préparatifs en vue de son offensive à Rafah malgré les mises en garde de la communauté internationale. Plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Les ONG s'inquiètent d'un risque important de victimes civiles. De son côté, l'OMS alerte sur la consommation d'alcool, mais aussi de cigarettes électroniques chez les adolescents. Une tendance alarmante qui requiert une action urgente des pouvoirs publics selon la branche européenne de l'organisation. Selon ce rapport, 57% des jeunes de 15 ans ont déjà bu de l'alcool et près de 4 sur 10 ont déjà même consommé au cours des 30 derniers jours. Et puis il faut passer à la caisse pour visiter Venise. La cité des Doges va imposer une taxe touristique à partir d'aujourd'hui pour tous les visiteurs à la journée qui devront désormais payer 5 €, un billet d'entrée qui sera mis en place lors de chaque journée de forte affluence afin de lutter notamment contre le surtourisme. Excellente matinée à tous.
Léo Ardourel était avec nous pour les informations. Léo qui revient tout à l'heure à 7h15 pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, on aura parlé météo, bien entendu, comme chaque matin. On aura également passé en revue les unes de la presse régionale et nous aurons écouté notre petit air, un petit air très baba cool ce matin. Voilà, je vous en dis pas plus. Tout de suite, notez qu'à 7h17, eh bien, nous avons rendez-vous avec Patrick Huffard et ses pronostics pour le Quintet Plus de ce jeudi. Nous avons rendez-vous aussi à 7h27 avec Frédéric Coster. Le livre du jour aujourd'hui, Crépuscule de James Rollins, paru aux éditions Fleuve Noir. C'est le livre que nous fera découvrir Frédéric Coster. Et puis, à 7h35, nous irons au jardin de Christophe. On parlera du chancre du pommier. Voilà, un vilain champignon. On en parlera donc tout à l'heure dans le jardin de Christophe. Et puis, à 7h52, Nathalie Villanon nous emmène à Pléguien dans les Côtes d'Armor. Ce sera destination commune. Elle sera en compagnie du maire de Pléguien, Philippe Legout. Et puis, à 8h08, notre horoscope des méchants avec David Christoffel juste après Backstage et Baptiste Berthelin, je vais y arriver. Et bien entendu, à 8h15, notre invité politique, Laurence Dufau, première secrétaire du PS en Ille-et-Vilaine, candidate du Parti Socialiste aux élections européennes sur la liste Réveiller l'Europe conduite par Raphaël Glucksmann. Elle sera avec nous en direct tout à l'heure au micro de la matinale. Vous écoutez Bretagne 5. Il est 7h04. Tout de suite, nous allons prendre des nouvelles du temps. Des températures encore inférieures aux moyennes et un ciel variable. Voilà pour le résumé météo du jour. Dans le détail, ce matin, les nuages sont plus épais sur le nord de la Bretagne et le littoral de la Manche, où quelques faibles averses sont possibles. Quelques brouillards matinaux sont également présents sur le centre Bretagne. Ils devraient se dissiper rapidement et faire place à un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircis. Les passages ensoleillés seront néanmoins plus nombreux sur les rivages de l'Atlantique et le sud de la Bretagne. Cet après-midi, le temps reste mitigé, mais le soleil sera plus présent du nord Finistère aux Côtes d'Armor et jusqu'à l'Ille-et-Vilaine. Du centre-Bretagne au bassin nantais, le ciel sera plus nuageux et des averses seront possibles dans le courant de la journée à l'approche d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui devrait traverser la Bretagne vendredi. Dans le courant de la journée, le vent d'ouest soufflera en rafale jusqu'à 30 à 40 km/h. Côté température, les minimales sont encore basses ce matin. Elles varient de 2 à 4 degrés en Bretagne centrale où on a vu même des petites gelées ce matin et même sur les côtes, du côté des Côtes d'Armor. Elles sont de 6 à 9 degrés ces températures ce matin près des côtes. Dans l'après-midi, les maximales seront comprises entre 11 et 15 degrés.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et tout de suite, nous allons parcourir les unes de la presse régionale avec Presse Océan qui met à sa une un député, Joël Guerriau, retour en catimini, nous dit Presse Océan, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso. Le sénateur de Loire-Atlantique rompt le silence et explique à Presse Océan comment il prépare son retour. C'est à lire en une de Presse Océan ce matin. Presse Océan qui nous parle aussi des marches de la discorde qui ont été nettoyée à Nantes. La ville s'est décidée finalement à effacer les drapeaux peints recouvrant l'escalier Butte Sainte-Anne, c'est-à-dire en page 10 de Presse Océan ce matin. Presse Océan qui nous parle de croisière aussi, avec trois chefs pour une croisière. Un étoilier, un pâtissier et un fromager vont participer en mai à une croisière gastronomique. Voilà de quoi nous mettre les papilles en éveil. Et c'est à lire dans Presse Océan ce matin. Plus sérieusement, Presse Océan parle de la protection de l'enfance. Le cri d'alarme du président du département. Il est à lire en page 5 ce cri d'alarme dans Presse Océan. Le Télégramme nous parle des embauches. La Bretagne craint le repli. Les entreprises ont du mal à se projeter et freinent sur les recrutements. Les intentions d'embauche dans la région reculent ainsi de 6,4% par rapport à 2023. C'est-à-dire en détail dans le dossier que vous propose le Télégramme ce matin. Le Télégramme qui nous parle aussi du ras-le-bol d'agents municipaux contrôlés par des dealers. Ils sont jardiniers, agents de la propriété et ils veulent retrouver la quiétude au travail. Ils ont déposé un préavis de grève. Ça se passe à Rennes, c'est-à-dire en détail dans le Télégramme. Le Télégramme qui nous parle aussi du groupe Casino, quatre magasins bretons en sursis. Les sites de Brest, Lannion, Saint-Brieuc, Malétroit, plus une plateforme en cinq mois pour trouver un repreneur. C'est-à-dire également dans le Télégramme. Le Télégramme qui nous emmène à Port-Salle, nous parle d'un choix regrettable au brevet blanc. Dans une épreuve de géo, était cité l'élevage porcin intensif et polémique de Landuvèze, situé non loin. Ça a créé donc cette polémique près de Port-Salle et c'est à lire dans le Télégramme ce matin. Le Télégramme, enfin, qui nous parle de cyclisme et du Tour de Bretagne qui s'élance ce jeudi. 25 formations sont au départ à Locmaria Plouzané, c'est-à-dire en page 19, c'est précis, du Télégramme. Ouest France nous parle des mines. Rouvrir des mines, un défi pour la France. Cobalt, titane, terres rares, l'Europe veut réduire sa dépendance aux minerais stratégiques, extraits et transformés à l'étranger. Un projet de mine de lithium, métal essentiel aux batteries des véhicules électriques, est en cours dans l'Allier. Mais il fait débat, c'est-à-dire dans Ouest France ce matin. Ouest France qui nous emmène à Rennes pour la nouvelle rencontre donnée sa moelle osseuse a changé sa vie. Il s'appelle Jonathan Sablé, il est éleveur laitier de 30 ans et il se démène pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les fichiers de donneurs et ainsi sauver des vies. C'est à lire dans Ouest France qui nous parle également de l'emploi et des intentions d'embauche qui sont en baisse en 2024, particulièrement en Bretagne. L'agriculture également à la une de Ouest France. Les eurodéputés adoptent une révision de la PAC. Les détails sont à lire également dans les colonnes de Ouest France. Enfin, la santé est à la une de Ouest France. Quel délai pour obtenir un rendez-vous médical? Obtenir rapidement un créneau chez son médecin, c'est possible, mais les délais sont très inégaux selon les spécialités et les territoires. De la misère de la médecine sur nos territoires, c'est à lire dans Ouest France ce matin.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Et tout de suite, nous allons fredonner avec notre petit air dans la tête. Voilà un petit air qui a accompagné bien des guitaristes en herbe. Un petit air, un brin babacool, tout droit sorti d'une époque où l'amour et les fleurs s'imposaient comme une règle de vie en marge d'une société de consommation en pleine expansion. 4 ans après un mois de mai qui fut agité, les temps étaient à la protestation pacifique, au flower power, au refus de la guerre au Vietnam, à la libération des mœurs. Bref, la société changeait doucement. Plus tard viendraient les désillusions. En cette année 1972, les ouvrières du Joint français en grève découvrent à la radio San Francisco le premier titre d'un certain Maxime Le Forestier, jeune chanteur engagé de 23 ans, qui publie quelques mois plus tard, en octobre, son premier album intitulé Mon frère. San Francisco va devenir une sorte d'hymne pour une jeunesse éprise de liberté et de retour à la nature. San Francisco fera aussi les beaux jours, ou plutôt les belles soirées guitare autour d'un feu de camp, en quelque sorte la bande son d'une génération. La chanson est née d'un voyage à San Francisco où Catherine Le Forestier, accompagnée de son frère Maxime, décide d'aller dans une communauté hippie baptisée Ugadunga, qui s'est installée dans une maison bleue située au 3841 de la 18e rue, c'est précis, dans le quartier du Castro. De retour en France, Maxime Le Forestier, qui a gardé des contacts avec les habitants de la fameuse maison bleue, décide de les remercier de leur accueil en leur écrivant une chanson, ce sera San Francisco. Le 21 juin 2011, pour les 40 ans de carrière de Maxime Le Forestier, une plaque a été apposée sur la Maison Bleue de San Francisco qui rappelle qu'elle a inspiré la chanson devenue célèbre. À l'occasion, la maison qui avait été repeinte entre-temps en vert a été à nouveau repeinte en bleu, cette fois-ci par ses propriétaires. San Francisco a traversé le temps, les générations et les ondes. Elle nous revient précisément sur les ondes ce matin comme un souvenir d'un temps finalement pas si lointain.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Luc, Sylvia, attendez-moi.
Et ça aura forcément rappelé quelques souvenirs à quelques-uns plus âgés d'entre nous qui ont vécu cette belle période, un peu moins troublée que celle d'aujourd'hui. C'était notre petit air dans la tête avec un peu de douceur. Maxime Le Forestier avec San Francisco et cette fameuse Maison Bleue. Notre petit air revient demain sur les ondes de Bretagne 5. Et tout de suite, eh bien, sur les ondes de Bretagne 5, nous accueillons Léo Ardourel qui revient pour un point sur l'actualité.
Bonjour à tous. Les trois quarts des vols sont concernés à Paris-Orly, plus de la moitié à Roissy et jusqu'à 65% à Marseille-Provence. De nombreuses perturbations sont attendues aujourd'hui dans les aéroports du pays et ce malgré la levée du préavis de grève chez les contrôleurs aériens. Hier, le syndicat majoritaire a trouvé un accord, mais le délai était trop court pour pouvoir rétablir tous les vols à temps. Selon le ministre délégué au transport, le préavis déposé pour l'ascension a lui aussi été levé. L'enquête avance après la mort de Philippe Koopman à Grande-Synthe. Un troisième mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire hier soir. Il s'agit d'un ado de 15 ans, cousin de l'un des deux mineurs déjà mis en examen. Il est soupçonné d'avoir pris à l'agression mortelle de Philippe, dont les obsèques ont été célébrées hier. 500 personnes étaient présentes. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron à la Sorbonne. Le chef de l'État va y prononcer un discours sur l'Europe ce matin, 7 ans après un premier exercice au même endroit durant lequel il avait élaboré une feuille de route pour l'UE pour les 10 ans à venir. L'occasion pour lui de faire le bilan et de dresser de nouvelles perspectives à 1 mois et demi des élections européennes du 9 juin. À l'étranger, le gouvernement israélien dit avancer dans les préparatifs en vue de son offensive à Rafah malgré les mises en garde de la communauté internationale. Plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Les ONG s'inquiètent d'un risque important de victimes civiles. De son côté, l'OMS alerte sur la consommation d'alcool, mais aussi de cigarettes électroniques chez les adolescents. Une tendance alarmante qui requiert une action urgente des pouvoirs publics selon la branche européenne de l'organisation. Selon ce rapport, 57% des jeunes de 15 ans ont déjà bu de l'alcool et près de 4 sur 10 ont déjà même consommé au cours des 30 derniers jours. Et puis il faut passer à la caisse pour visiter Venise. La cité des Doges va imposer une taxe touristique à partir d'aujourd'hui pour tous les visiteurs à la journée qui devront désormais payer 5 euros. Un billet d'entrée qui sera mis en place lors de chaque journée de forte affluence afin de lutter notamment contre le surtourisme. Excellente matinée à tous.
Et c'était Léo Ardourel qui était avec nous pour les informations. Léo qui revient tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant, c'est Louis Crépeau qui va nous rejoindre pour l'actualité sportive. Mais tout de suite, eh bien nous allons aller du côté des hippodromes avec Patrick Huffard qui nous propose, comme chaque matin, ses pronostics pour le Quintet Plus. Bonjour Patrick.
Bonjour Stéphane, c'est un quintet exclusivement féminin qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Elles seront 16 juments âgées de 4 à 7 ans à s'affronter sur les 2150 mètres de la moyenne piste. Méfions-nous de Lorne, le numéro 16. Elle retrouve le moral et voit son poids baisser d'un kilo et demi. Si le terrain n'est pas trop lourd, elle peut faire une bonne gagnante à une belle cote. Girafe, le 6, n'a rien à se reprocher dans le quintet du 21 mars à Saint-Cloud. Elle prend une bonne troisième place après un bel effort final. Indian Gold, le 9, retrouve Pingo, le 7, qui l'a battu le 5 avril à Saint-Cloud, avec un avantage d'un kilo et demi. On peut miser sur toutes les deux. Une autre Gold, Matori Gold, le 5, a déjà couru 7 quintets et s'y est placé 2 fois. On peut aussi compter sur elle. Enfin, Looking at Me, le 14, vient de se montrer impérial pour sa rentrée à Fontainebleau. Et si elle a récupéré de sa course d'il y a 12 jours, elle peut briller. Voici donc en chiffres notre choix, 16, 6, 9, 7, 5 et 14. À vendredi Stéphane.
À vendredi Patrick, le rendez-vous est pris. Patrick Huffard, les pronostics de Patrick pour le Quintet Plus sont à retrouver tout à l'heure à 12h05 sur Bretagne 5 et à Mitterfist. Vous pouvez réécouter évidemment ces pronostics sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Il est pile 7h19 dans un instant, je vous le disais. Louis Crépeau sera avec nous pour l'actualité sportive, le temps pour nous d'écouter quelques notes de musique signée à Jen Maria.
The night I let you be my
5. Stéphane Hamon, le 7-9.
Voilà qui est dit, je suis cool, c'était Lou de la Falaise sur Bretagne 5 et lui aussi. Il est cool, Louis Crépeau qui nous rejoint pour l'information sportive. Bonjour Louis.
Bonjour, pas encore de titre pour Paris, le mauvais départ de Monaco en Euroleague et puis la belle soirée de Montpellier en handball, c'est l'actu sport ce matin. À la une, le football, le 12e titre attendra encore un peu pour le PSG. Paris a fait le job à Lorient en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Victoire sérieuse à 4-1 en Bretagne, mais dans le même temps, Monaco s'est imposé face à Lille et retarde un peu le sacre parisien. L'ASM prend 5 points d'avance sur Brest. La deuxième place, synonyme de Ligue des Champions, est-elle assuré, pas tout à fait pour le monégasque Youssouf Fofana au micro de Prime Vidéo, écoutez.
Pas encore. On a un gros match ce week-end et voilà, l'essentiel ce sera de sécuriser cette place le plus rapidement possible, mais pas encore. On met la pression depuis quelques mois, on a fait quelques faux pas et maintenant qu'on a cette place, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il va falloir trouver les solutions, mais là le plus c'est qu'on est, on est quand même en confiance et ça va se jouer notamment dimanche. Si on repart avec un bon résultat, on peut continuer cette belle série.
Et Monaco ira à Lyon dimanche alors que Paris recevra Le Havre samedi. Et puis notez que dans le troisième match de la soirée hier, match nul de partout entre Marseille et Nice. Le basket avec une autre équipe de Monaco, moins de réussite pour la Roca Team, battue sur son parquet dans le match 1 des quarts de finale de l'Euroleague, défaite 95-91 face à Fenerbahçe. Deuxième match demain soir, toujours à Monaco. Soirée européenne également pour le handball et Montpellier, les hommes de Patrice Canaillé ont écrasé les Allemands de Kiel hier 39-30 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG reçoit Barcelone. Un mot de tennis avec le tournoi de Madrid. Ça passe pour Lucas Vanhaché, seul Français qualifié hier puisque c'est fini pour Arthur Anarknech, Gaël Monfils, Corentin Moutet, Varvara Gracheva et Clara Burel. À suivre aujourd'hui, Richard Gasquet. Et puis le cyclisme avec la première étape du Tour de Romandie. Victoire du Français Dorian Godon qui prend du même coup le maillot de leader. Julien Alaphilippe lui termine 39e, mais après une journée encourageante pour la suite. Voilà pour l'actu sport, très belle journée à vous.
Merci Louis. Louis Crépeau était avec nous pour l'actualité sportive. Il est 7h28 sur Bretagne 5. Il nous rejoint Frédéric Coster au micro de la matinale pour son livre du jour.
Le livre du jour sur Bretagne 5. James Rollins est un auteur de renommée internationale. Il est un des auteurs majeurs du roman d'aventure dans lequel il mêle science et thriller. Spéléologue et plongeur chevronné, il s'inspire de ses aventures personnelles pour écrire ses romans, dont 20 ont déjà paru chez Fleuve Éditions. Et voici le nouveau, Crépuscule. Dans un petit village du Congo, une équipe de secours des Nations Unies fait une découverte alarmante. Les hommes, les femmes et les enfants ont été réduits à un état végétatif par une force inconnue. L'environnement qui les entoure, plantes et animaux, est devenu leur plus grand prédateur, évoluant à un rythme exponentiel. Ce phénomène insidieux se propage à partir d'un site maudit de la jungle, connu des habitants sous le nom de Royaume des Os, et balaie l'Afrique, menaçant le reste du monde. Comment la biosphère s'est-elle emballée ? S'agit-il d'un phénomène naturel ? Ou plus terrifiant encore, quelqu'un l'a-t-il conçu ? Crépuscule, c'est une nouvelle aventure de l'équipe Sigma Force. Crépuscule de James Rollins est paru chez Fleuve Noir.
Et c'était votre conseil de lecture, Frédéric Coster. Conseil de lecture à retrouver sur le site de Bretagne 5 en réécoute, bretagne5.fr.
Merci.
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 Écoutez, vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite révolution radiophonique, le DAB+. Le DAB+, est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique sans abonnement. Avec un poste de radio équipé DAB+, où que vous soyez, chez vous, en voiture, profitez d'une expérience radio unique et d'une qualité d'écoute optimale. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
Et vous écoutez Bretagne 5 en DAB+, même à Brest, où il est 7h30. L'heure des informations avec Léo Ardourel.
Bonjour à tous. Les trois quarts des vols sont concernés à Paris-Orly, plus de la moitié à Roissy et jusqu'à 65% à Marseille-Provence. De nombreuses perturbations sont attendues aujourd'hui dans les aéroports du pays et ce malgré la levée du préavis de grève chez les contrôleurs aériens. Hier, le syndicat majoritaire a trouvé un accord, mais le délai était trop court pour pouvoir rétablir tous les vols à temps. Selon le ministre délégué au transport, le préavis déposé pour l'Ascension a lui aussi été levé. L'enquête avance après la mort de Philippe Koopmans à Grande-Synthe. Un troisième mineur a été mis en examen et placé en détention provisoire hier soir. Il s'agit d'un ado de 15 ans, cousin de l'un des deux mineurs déjà mis en examen. Il est soupçonné d'avoir pris à l'agression mortelle de Philippe, dont les obsèques ont été célébrées hier. 500 personnes étaient présentes. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron à la Sorbonne, le chef de l'État va y prononcer un discours sur l'Europe ce matin, 7 ans après un premier exercice au même endroit durant lequel il avait élaboré une feuille de route pour l'UE pour les 10 ans à venir. L'occasion pour lui de faire le bilan et de dresser de nouvelles perspectives à un mois et demi des élections européennes du 9 juin. À l'étranger, le gouvernement israélien dit avancer dans les préparatifs en vue de son offensive à Rafah malgré les mises en garde de la communauté internationale. Plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Les ONG s'inquiètent d'un risque important de victimes civiles. De son côté, l'OMS alerte sur la consommation d'alcool, mais aussi de cigarettes électroniques chez les adolescents. Une tendance alarmante qui requiert une action urgente des pouvoirs publics selon la branche européenne de l'organisation. Selon ce rapport, 57% des jeunes de 15 ans ont déjà bu de l'alcool et près de 4 sur 10 ont déjà même consommé au cours des 30 derniers jours. Et puis il faut passer à la caisse pour visiter Venise. La cité des Doges va imposer une taxe touristique à partir d'aujourd'hui pour tous les visiteurs à la journée qui devront désormais payer 5 euros. Un billet d'entrée qui sera mis en place lors de chaque journée de forte affluence afin de lutter notamment contre le surtourisme. Excellente matinée à tous.
Léo Ardourel était avec nous pour les informations. Léo qui revient tout à l'heure à 7h45 pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous on va parler innovation tout de suite avec Valentin. Bon Jean.
Après les moteurs hybrides pour les voitures, peut-être bientôt une nouvelle motorisation pour les bateaux. C'est en tout cas la piste que doit explorer le Naoned. Ce chalutier polyvalent basé à Lorient en Bretagne va servir de laboratoire pour déterminer si l'hybridation des moteurs de bateaux peut être une solution viable. Une expérience menée par l'APAC, l'armement de la pêche artisanale de Quéroman, qui a contacté la start-up nantaise Vectura System afin de concrétiser cette ambition. Sur le papier, la tâche ne paraît pas insurmontable. 25 ans après l'apparition de la technologie hybride dans l'automobile, il suffirait simplement d'adapter les moteurs déjà existants en Amérique
améliorant leur capacité de propulsion et leur résistance aux conditions difficiles que l'on peut rencontrer en mer. Pour y arriver, le Naoned va être bardé de capteurs. Objectif, recueillir un maximum de données sur les conditions de navigation du bateau et la consommation pour ensuite concevoir un double numérique, un navire virtuel sur lequel vont pouvoir plancher les ingénieurs. Un enjeu majeur, crucial même, puisque l'augmentation du prix du pétrole de ces dernières années menace sérieusement l'activité de nombreux professionnels de la pêche en France. Par exemple, pour un chalutier de 23 mètres, comme le Naoned, la consommation annuelle en gasoil représente environ 450 000 litres. La première phase de test doit être lancée en juillet prochain, et si elle se concrétise, la phase 2, celle qui visera précisément à adapter le moteur, pourra commencer en 2025. Coût total de l'expérience, près de 2 millions d'euros.
Et c'est le prix à payer pour préserver l'environnement. C'était Valentin Bonjean qui était avec nous et qui nous parlait d'innovation ce matin. Vous écoutez Bretagne 5, il est 7h34.
Bretagne 5, Stéphane Hamon. Le 7-9.
Et en ce jeudi, il est là, fidèle au poste, Christophe Hamon, le jardin de Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric, bonjour chères auditrices et auditeurs.
Oh, quelle liaison. Ce matin, c'est Annie, une auditrice qui vous a écrit, Christophe, elle écoute Bretagne 5, près de Planquette. Elle a des pommiers qui ont eu le chancre du pommier et qui ont été traités. Elle aimerait savoir avec quoi traiter l'arbre après la suppression du chancre.
Bonjour Annie. Eh bien, comment on le repère ce chancre? Eh bien, on voit des lésions sur l'écorce. Hein. C'est fréquent, hein, faut le savoir. Alors, ils peuvent être de différentes tailles et formes, ces lésions. Alors, c'est des petites taches brunâtres, on peut en voir, ou alors de larges ulcérations. Mmh. En général, c'est entouré d'un halo de couleur un peu plus foncé. C'est comme ça qu'on les repère. Ça, si on est face à ce phénomène, pas de doute, on est face au chancre du pommier, notamment. Alors, le traitement, appliquer de la bouillie bordelaise, hein, c'est le traitement principal, sachant que ben, les produits un petit peu plus néfastes maintenant sont déconseillés, ils sont même interdits, et c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez aussi, après avoir appliqué le traitement à la bouillie bordelaise, colmater avec un mastic cicatrisant au pommier. Hein, ça va permettre de se réparer et de combler le terrain propice.
À d'autres affections.
Voilà, finalement. À d'autres affections. Mmh, mmh. Absolument, Stéphane. Alors, les traitements fongicides à base de cuivre sont conseillés. La bouillie bordelaise, c'est du cuivre.
Hein. Oui, oui, oui.
Voilà. Alors, la lutte préventive, vous me demandiez, Annie.
Elle avait de la lutte préventive et curative, visiblement.
Curative,
voilà.
Alors, vous allez désinfecter d'abord à la taille. C'est important, la taille. Mmh. Quand on taille, parce que c'est pas tout le temps nécessaire, mais vous allez désinfecter vos outils lors de la taille, c'est important. Vous allez tailler tardivement, hein, et par temps sec. Vous pouvez aussi prendre, ça existe, hein, des variétés résistantes au chancre, notamment. Donc je reviens à ma fameuse taille là. Il faut enlever les parties infectées le plus possible. Et il faut surtout aérer votre pommier. Il faut que l'air passe.
Mmh. Il ne faut pas qu'il soit trop dense.
Voilà, il ne faut pas qu'il... Non, il faut qu'il... Ben, il faut qu'il respire, pommier. Et là, on va limiter... on est dans la prévention parce qu'on va limiter l'apparition du chancre. Alors, vous pouvez aussi curter les parties chancreuses, hein, à l'aide d'une brosse métallique, par exemple. Ça, et après, vous pouvez aussi réparer donc, ces fameuses parties que vous avez...
Gratté,
voilà, c'est ça, absolument. Merci, Stéphane. Ben, vous appliquez votre petit mastic dessus. Ça va encore favoriser une bonne circulation de la sève. Alors, favoriser une bonne circulation de l'air aussi, c'est ce que je disais. Donc, éclaircir et bouillie bordelaise deux fois par an, au printemps et à l'automne. C'est à peu près tout ce qu'on peut conseiller, hein, pour limiter l'apparition du chancre.
Et une fois traité, on le laisse en l'état, finalement.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est
d'accord. Ça. Eh bien, on suivra le chancre. Alors, juste une précision, le chancre a plutôt un terrain propice lorsque c'est humide, si j'ai bien compris.
Oui, parce que c'est une maladie fongique. Donc, les maladies fongiques arrivent en général quand il fait chaud, quand on a une certaine température et quand on a de l'humidité ambiante. Voilà. Et c'est pour ça que aérer, ça prend tout son sens, parce que l'air passe bien et l'humidité est moins stagnante. Voilà, donc, on limite l'apparition de notre chancre.
Voilà, ça empêche le champignon de s'installer.
C'est ça, ou du moins ça limite.
Mmh.
Hein.
Mais l'arbre ne risque pas de mourir.
Avec du chancre ? Ah ben, ça a l'impact hein, quand même à terme. Si on le laisse se développer, sa durée de vie, et puis il se porte pas bien, et voilà, il est quand même moins en forme.
Là encore, faut être attentif.
Voilà, attentif, observer.
Le jardin de Christophe.
Le jardin qui a moins besoin du jardinier que le jardinier du jardin. Hein. On l'entend tous les jours, ça.
Et vous avez placé votre petite formule, Christophe.
Ah, je suis
Hamon.
Content de moi.
Christophe Hamon, le jardin de Christophe qui revient demain vendredi, comme chaque jour sur l'antenne de Bretagne 5 et même en podcast sur bretagne5.fr. À demain, Christophe.
À demain.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Christophe Hamon, que l'on va rendre à son café. Il est à 7h39 sur Bretagne 5. Dans un instant, nous allons retrouver les informations avec Léo Ardourel et nous parlerons météo. Le temps pour nous d'écouter quelques notes de musique avec Isaac Delusion et Lucas V. C'est Let Her Go.
Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.
Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? dans nos mains, l'avenir qui brille de beau lendemain. Roulement à billes, je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais?
C'était Albin de la Simone, les 100 prochaines années. Voilà, on a du mal à se projeter déjà à 6 mois. Comment voulez-vous se projeter à 100 ans? Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Il est 7h45 sur Bretagne 5. On va pas faire de débat. On retrouve tout de suite l'information avec Léo Hardourel.
Bonjour à tous. C'est une prise de parole scrutée de près à quelques semaines des élections européennes. Emmanuel Macron est attendu en fin de matinée à la Sorbonne pour un discours sur l'Europe. L'occasion pour lui de dresser un bilan, mais aussi des perspectives 7 ans après un premier exercice similaire dans l'enceinte de l'université parisienne. Le jeudi noir se confirme dans les aéroports. De nombreux vols sont annulés aujourd'hui malgré la levée du préavis de grève chez les contrôleurs aériens. Un accord a pourtant bien été trouvé hier, mais le délai était trop court pour éviter les perturbations. C'est Paris Orly qui devrait être le plus touché avec 3/4 des vols supprimés, plus de la moitié à Roissy, 65% à Marseille-Provence et 45% en moyenne dans le reste du pays. C'est un symbole des nuits parisiennes. Les ailes du Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer. Les pompiers de Paris sont intervenus sur place afin de vérifier l'état du reste du bâtiment. Les causes de cet effondrement ne sont pour le moment pas connues. Dans l'actualité également, Kenji Girac maintient sa version. Le chanteur a été entendu par les enquêteurs à l'hôpital. Retrouvé grièvement blessé par balle en début de semaine sur l'aire des gens du voyage de Biscarrosse, l'artiste assure qu'il s'agit d'un tir accidentel de sa part suite à une mauvaise manipulation. Le procureur de Mont-de-Marsan doit tenir une conférence de presse cet après-midi. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez envisage de démissionner. C'est ce qu'il a déclaré alors que sa femme est visée par une enquête pour trafic d'influence et corruption. Le chef du gouvernement espagnol a précisé qu'il annoncerait sa décision lundi prochain et qu'il suspendait d'ici là ses activités. Et puis un mot de football, le PSG toujours plus proche d'un 12e sacre en Ligue 1 et ce après sa victoire 4-1 hier soir à Lorient au match en retard de la 29e journée. Les Parisiens vont cependant devoir encore patienter pour être sacrés au moins jusqu'à ce week-end en raison de la victoire de leur dauphin Monaco qui s'est imposé 1-0 face à Lille. Et puis un match nul qui n'arrange personne. Marseille et Nice se sont quittés dos à dos hier soir sur le score de 2-2. Très bonne journée à tous.
C'était Léo Hardourel qui était avec nous pour les informations. Il est 7h47, on va tout de suite parler météo.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Des températures encore inférieures aux moyennes et un ciel variable. Voilà pour le résumé météo du jour. Dans le détail, ce matin, les nuages sont plus épais sur le nord de la Bretagne et le littoral de la Manche, où quelques faibles averses sont possibles. Quelques brouillards matinaux sont également présents sur le centre Bretagne. Ils devraient se dissiper rapidement et faire place à un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Les passages ensoleillés seront néanmoins plus nombreux sur les rivages de l'Atlantique et le sud de la Bretagne. Cet après-midi, le temps reste mitigé, mais le soleil sera plus présent du nord Finistère aux Côtes d'Armor et jusqu'à l'Ille-et-Vilaine. Du centre-Bretagne au bassin nantais, le ciel sera plus nuageux et des averses seront possibles dans le courant de la journée à l'approche d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui devrait traverser la Bretagne vendredi. Dans le courant de la journée, le vent d'ouest soufflera en rafale jusqu'à 30 à 40 km/h. Côté température, les minimales sont encore basses ce matin. Elles varient de 2 à 4 degrés en Bretagne centrale où on a vu même des petites gelées ce matin et même sur les côtes, du côté des Côtes d'Armor. Elles sont de 6 à 9 degrés ces températures ce matin près des côtes. Dans l'après-midi, les maximales seront comprises entre 11 et 15 degrés.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et dans un instant, c'est Destination Commune avec Nathalie Villalon qui nous emmène à Pléguien dans les Côtes d'Armor. Toute cette semaine, le temps pour nous d'écouter à nouveau quelques notes de musique. On va se plonger dans la bande originale de la série OVNI passée il y a quelques années déjà sur Canal+. Ça s'appelle Voyage Astral et c'est de Luc. Extrait de la bande originale de la série OVNI, Voyage Astral. Voilà, nous, on va faire un petit voyage. Il ne sera pas astral, mais il va nous conduire à Pléguien, dans les Côtes d'Armor, où nous attend Philippe Legout, qui est au micro de Nathalie Villanon. C'est Destination Commune.
Destination Commune, toute cette semaine, à Pléguien, dans les Côtes d'Armor, avec son maire, Philippe Legout. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Legout, j'imagine que être maire, c'est compliqué et c'est encore plus compliqué quand on parle du logement. Comment vous y arrivez? Est-ce que vous arrivez justement à loger tout le monde à Pléguien?
Alors, comme vous le dites, le logement aujourd'hui, c'est compliqué. On n'arrive pas à loger tout le monde. Ça, c'est sûr. Régulièrement, nous avons des demandes en mairie pour de personnes qui sont à la recherche de logement et on est incapable de leur proposer des logements ou des adresses. Vers qui peuvent se, des personnes vers qui peuvent se tourner pour trouver un logement. Donc c'est vraiment un point noir. On a une politique sur le logement qui est plutôt dynamique en ce moment sur la commune, puisque on a en fait un lotissement qui est en cours de construction. On a une quinzaine de lots là qui sont, les maisons sont en là dans les semaines qui viennent, les premières vont être habitées, et puis on a une cinquantaine de lots qui, dans les 3-4 ans à venir, seront construites. Donc on a cette politique ambitieuse là pour pouvoir accueillir des nouvelles populations. On a travaillé depuis plusieurs années sur le logement social aussi pour permettre à des gens qui auraient des revenus trop faibles pour pouvoir devenir propriétaires, de pouvoir trouver des logements à la location. Donc on travaille là-dessus. Et puis après, on a une politique sur le logement vacant. Depuis 2020, en fait, nous avions pris la décision de taxer les logements vacants de manière à sensibiliser les propriétaires de logements vides pour qu'ils remettent ces logements sur le marché, soit à la location, soit à la vente, pour justement essayer de donner un toit à tous ceux qui en recherchent. Donc on essaye d'accompagner. Après, tout seul, plus rien, on peut pas faire grand chose. Donc on a besoin du soutien, que ce soit à l'échelle départementale, régionale et évidemment nationale. Et on travaille dès qu'on peut pour pousser, pour faire avancer les choses, faire construire chez nous des logements sociaux. Donc on travaille auprès des bailleurs sociaux pour renforcer cette dynamique du logement.
Et le bâti, est-ce que vous allez pouvoir en reconstruire encore? Est-ce que vous allez pouvoir acheter de nouveaux terrains ou alors c'est complètement terminé?
Alors, là, il y a la loi qu'on appelle ZAN, le zéro artificialisation net, donc qui, en 2050, vise à ce qu'on ne puisse plus artificialiser des terrains. Ça veut dire que, à partir de 2050, on ne pourra plus construire sur des terrains qui ne sont pas déjà construits. Donc, ça veut dire que ça va limiter les constructions, sauf dans des zones qui sont déjà urbanisées. Ça veut dire des fonds de jardin, ça veut dire des vieilles maisons qu'on démolirait pour construire d'autres, ou bien des maisons déjà existantes qui pourraient profiter d'extensions ou choses comme ça. Donc, nous, aujourd'hui, dans le conseil municipal, on se dit ça. On se dit que, un, on doit pousser à la rénovation de l'existant. Deux, optimiser les surfaces disponibles de manière à ne pas gaspiller des surfaces. Ça veut dire qu'aujourd'hui, construire une maison sur un terrain de 3000 m², c'est plus possible. C'est plutôt, on construit sur un terrain de 700 m² maxi, et si c'est plus petit, c'est bien aussi à nous d'organiser les choses pour faire en sorte que on puisse construire malgré la rareté des surfaces, et du coup ça entraîne des plus petits terrains. Ça fait partie de l'évolution à laquelle on doit tous s'attendre pour les années à venir.
Il y a des écoles également à Pléguien, Philippe Legout, et c'est également aussi votre combat là actuellement. Vous vous battez contre la fermeture d'une classe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, Pléguien a la chance d'avoir une école depuis toujours. Donc on est en regroupement pédagogique intercommunal avec la commune voisine de Trécignot. Et on a quatre classes à Pléguien, quatre classes à Trécignot, et avec un système de navette scolaire qui se passe très bien depuis 1976, donc ça fait presque 50 ans que ça fonctionne et ça se passe très bien. Sauf que aujourd'hui il y a de moins en moins d'enfants à naître dans les familles, donc de moins en moins d'enfants inscrits dans les écoles, et de ce fait on nous impose la fermeture d'une classe à la rentrée de septembre. Donc forcément nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce que, je prends l'exemple spécifique de Pléguien et de Trécignot, on a une moyenne d'enfants par classe de 20. On considère que à 20 enfants par classe, on n'est pas encore en abus d'attribuer un professeur pour 20 enfants. Au contraire, on pense que si l'éducation nationale revoyait sa copie en disant que, en effet, aujourd'hui, à 20 enfants par classe, c'est un effectif normal pour bien accompagner les enfants dans leur éducation, dans leur apprentissage, et faire en sorte que les choses se passent mieux au collège. Et en ce moment, on peut vraiment en parler avec toutes les drames qui se sont écoulés ces dernières semaines, au collège, au lycée et plus tard. Si on veut bien préparer nos enfants à un avenir en société qui soit collectif, qui soit humain, respectueux des autres, eh ben nous pensons que revoir la gestion des effectifs, et notamment autour de 20, ce serait beaucoup plus pertinent que les politiques qui sont appliquées aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je me bats avec mes collègues élus du conseil municipal pour maintenir cette huitième classe du RPI, du regroupement pédagogique intercommunal, de manière à donner à nos enfants les meilleures conditions pour se préparer à l'avenir.
Merci Philippe Legout. Rendez-vous demain. Et oui, déjà notre dernier rendez-vous à Pléguien dans les Côtes d'Armor. À demain.
À demain.
Et le rendez-vous est pris. C'est important l'éducation et les classes, les écoles rurales. On en a besoin. Voilà, être un petit peu moins dans les classes, ça permet aussi de mieux apprendre. Le débat est vaste. Retour demain, évidemment, de Destination Commune à Pléguien. Dernier rendez-vous vendredi. Et bien entendu, amis auditeurs, vous pouvez réécouter Destination Commune sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Il est 7h59. Nous sommes un petit peu en retard. Tout de suite, voici François Germain et son plateau télé.
Sur votre plateau télé ce soir, un mystère antique, des enquêteurs et un meurtre. Le temple égyptien de Dendera sur France 5, documentaire. À 460 km au sud du Caire, à proximité de Louxor, le temple de Dendera est un haut lieu de culte depuis l'ancien empire égyptien. Ce complexe antique n'a pas encore révélé tous ses secrets.
Il s'agit d'un site religieux aussi ancien que la civilisation égyptienne.
Ces décors sont tout à fait uniques en Égypte.
Cette représentation de Cléopâtre est très rare.
Le plafond est un des zodiaques égyptiens les plus anciens.
On a ici l'empereur Trojan, mais il est complètement égyptianisé.
Envoyé spécial sur France 2, magazine présenté par Élise Lucet. Parmi les thèmes du soir, Brigade des mineurs, des mots pour dire le mal. Chargé de recueillir le témoignage des enfants victimes d'agressions sexuelles, les enquêteurs de la Brigade de protection de la famille du commissariat de Besançon racontent leur méthode, leur victoire et leurs doutes. Les secrets du